commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et nous sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Non, hélas non. Nous ne nous souvenons pas de nous bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous.
Je pense sincèrement que le rythme, c'est la base de la communication. Dans toutes les cultures, dans tous les pays, partout, on berce un enfant pour le calmer. Et on peut avoir un rythme plus rapide au départ si l'enfant est énervé. Et ensuite, on va diminuer spontanément, on va diminuer le rythme de ses bercements, ralentir pour arriver à l'amener à un rythme plus lent et à l'endormissement. Et donc, on passe de son propre rythme à lui à notre rythme à nous.
Donc, le bercement, c'est déjà une synchronisation. C'est ça que vous êtes en train de me dire?
Tout à fait.
Joël Provasi est maître de conférence à l'École pratique des hautes études de l'Université Paris Sciences Lettres. Elle cherche à comprendre les origines de la communication. Pour cela, elle s'est intéressée à la perception des rythmes chez les nouveau-nés et à leur capacité à se synchroniser avec leur environnement. Vous devez vous demander pourquoi ces facultés sont fondamentales et vitales pour les nouveau-nés. Parce que se synchroniser, c'est déjà communiquer. La synchronisation est la première brique de la communication. Tout commence in utero. In utero, le fœtus est exposé à une multitude de stimulations rythmiques. Les recherches des 50 dernières années ont permis de mettre en évidence qu'au cours du troisième trimestre de la grossesse, les fœtus peuvent percevoir des sons et des mouvements.
Il évolue dans un environnement très rythmique. Il a déjà le rythme cardiaque de sa mère, le rythme respiratoire, il a le rythme des pas. Et maintenant, c'est grâce à tous les chercheurs qui ont travaillé sur le développement du fœtus que le fœtus perçoit ces rythmes-là. Alors, le rythme cardiaque, on est sûr. Le rythme des pas, on le sait, ça c'est une expérience de Caroline Granier-Defer avec son étudiante en thèse qui a montré que, en fait, le fœtus pouvait percevoir les changements de rythme. Quand la mère était assise et qu'elle se levait, quand la mère marchait, qu'elle s'arrêtait de marcher, là, il y a un changement et le fœtus a une décélération cardiaque qui montre qu'il a perçu ce changement. Par contre, quand la mère marche, il n'y a pas de décélération cardiaque à chaque pas, parce que sinon, ça ferait beaucoup quand même. Mais il y a une décélération cardiaque quand elle s'arrête de marcher ou quand elle s'assoit.
D'accord.
Donc, ça montre, ça prouve que le fœtus perçoit les changements de rythme.
Le rythme cardiaque de la mère est le premier métronome du fœtus. Les battements cardiaques et la respiration maternelle sont omniprésents in utero. C'est sur cette base rythmique permanente que la voix et les mots de la mère vont se surajouter.
Il y a un rythme qui est très important, c'est le rythme de la parole. Le fœtus entend sa mère à chaque fois qu'elle parle, ça, c'est prouvé, et surtout pendant, on va dire, le dernier trimestre de la grossesse. Donc là, on est sûr que le fœtus perçoit la parole. Alors, il perçoit beaucoup mieux sa mère que les autres,
Et grâce au rythme, grâce à la prosodie.
Alors, à la naissance, le bébé différencie sa langue maternelle d'une autre langue grâce à ce qu'on appelle la prosodie. Et donc, dans la prosodie, il y a l'intonation, la différence de fréquence et le rythme.
Cela me fait penser à une histoire que l'on m'a racontée. C'est une expérience qui a été réalisée avec des fœtus proches du terme, à qui l'on a fait entendre la valse de Brahms pendant 5 minutes. D'abord, à un tempo normal. Puis, la musique a été accélérée. La différence de rythme cardiaque des fœtus prouve qu'ils ont perçu l'accélération du rythme de la berceuse. Pendant sa thèse, Joëlle Provasi, elle, s'est intéressée au rythme de la succion chez les nouveau-nés. Elle a démontré que les bébés sont capables, dès leur naissance, de moduler leur rythme de succion pour entendre la voix de leur mère.
Donc, l'activité de succion n'est pas réflexe.
D'accord. Pourquoi ?
Ça fait partie. Parce que si c'était un réflexe, purement réflexe, il n'arriverait pas à la modifier. Un réflexe, on n'arrive pas à le modifier. Donc, lui, il arrive à modifier la durée des pauses entre les rafales de succion. Donc, s'il arrive à le faire, c'est que ce n'est pas vraiment un réflexe, mais on dit que c'est une réponse qui appartient au répertoire du nouveau-né. Et avec lequel il va pouvoir avoir des interactions avec son environnement.
Joëlle Provasi a démontré lors de sa thèse que les nouveau-nés modifient l'activité de succion en fonction des stimulations extérieures. Celle de la voix de la mère dans un premier temps, mais qu'en est-il des autres stimulations ?
Il n'y a pas que la succion qu'il est capable de modifier. Après ma thèse, j'ai regardé s'il était capable de téter plus rapidement, à un rythme plus rapide ou à un rythme plus lent, en fonction des simulations d'environnement aussi.
Et là, vous faisiez écouter de la musique rythmée ou de la musique lente ?
Pas du tout, parce qu'on est de la psychologie expérimentale, donc c'est pas des sons jolis, c'est le la 440. Hein.
C'est-à-dire ?
Et c'est bip, bip, bip.
Si comme moi, vous n'avez absolument aucune idée de ce qu'est le La 440. Écoutez, c'est ça.
Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait l'activité de succion, et donc l'ordinateur calculait le temps entre chaque succion. Et ensuite, pour un groupe de bébés, donc il avait un petit casque, et il entendait un bip, 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 quand le bip accélérait, la succion accélérée, comme si le bébé à la naissance, hein, puisque c'est 3 jours toujours, était capable de téter plus vite pour être en synchronie avec le bip qu'il entendait.
Après avoir travaillé sur le rythme de la succion, Joëlle Provasi s'est demandé si les nouveau-nés étaient capables de modifier d'autres choses en fonction de leur environnement. Elle a décidé de s'intéresser au mouvement des jambes des nouveau-nés. Et elle a conçu, avec Marianne Barburotte, une expérience étonnante. Souvenez-vous, Marianne Barburotte, vous l'avez entendue dans les épisodes précédents de ce podcast. Marianne Barburotte est docteure en neurosciences, spécialiste du développement moteur. Elle a travaillé sur la bipédie et la quadrupédie. Joëlle et Marianne ont cherché à savoir si la marche primitive du nouveau-né pouvait être déclenchée par des stimulations visuelles. Pour cela, elles ont suspendu des bébés en l'air, en tenant leur tête et en les soutenant sous le ventre, et elles ont fait défiler sous leurs pieds, mais sans qu'ils ne le touchent, un tapis visuel avec des damiers noirs et blancs simulant leur déplacement.
Cette manip-là, elle nous a surprises, mais ce qui était le plus surprenant, c'était peut-être de l'élaborer au niveau de la question.
Oui, c'est ça.
Et donc, et de la proposer aux parents. Ils aiment bien ça, les nouveau-nés. Hein. Ils aiment bien être manipulés, etc.
Marianne Barburotte m'avait parlé de cette expérience lors de notre rencontre.
C'est la première expérience qu'on a faite où on s'est posé la question de savoir si cette marche primitive à la naissance, elle pouvait être déjà contrôlée par la vision. Et c'est comme ça qu'on a fait notre petite manip en suspendant nos nouveau-nés en l'air avec ce qu'on appelle des flux optiques, c'est-à-dire un tapis visuel qui donne l'impression au nouveau-né qu'elle est en train d'avancer.
Mais quand même, sur cette expérience-là, ce qui m'a frappée, c'est que le bébé va simuler, enfin va faire des mouvements de la marche en rythme avec le déroulement du tapis lumineux. Oui. C'est-à-dire qu'il va se caler sur son environnement.
Absolument. En fait, ce qui se passe, c'est que...
Et on parle de nouveau-nés là, pardon, encore, Marianne.
Absolument, c'est des nouveau-nés typiques de 2 jours. On était obligé de les prendre juste sous leur poitrine, et puis avec un doigt, puisqu'ils sont tout petits, les nouveau-nés avec une main, on les a pratiquement tout entier dans la main, on tenait leur menton, pour pas que, puisqu'ils ont une tête très lourde. Donc et c'est là qu'on s'est dit, mais c'est fou, cette histoire. Ils sont non seulement en train de bouger à leurs jambes, ça c'était... l'hypothèse que j'avais au départ, mais ils bougent aussi leurs bras et tout ça en rythme avec le flux qui défile visuel sous leurs pieds. Et on a refait cette expérience 5-6 fois. Franchement, au début, on n'y croyait pas. On l'a refait. C'était toujours le même résultat. Après, on l'a fait en sens inverse.
C'est-à-dire vous dérouliez le tapis en marche arrière.
En marche arrière. Du coup, on voit des nouveau-nés qui font des mouvements différents. Ils ont du mal à les faire en marche arrière parce que ce n'est pas facile. Mais on voit qu'ils modifient ça pour commencer à être en phase avec ce qu'on leur montre.
Les nouveau-nés sont donc capables de synchroniser leurs mouvements de jambes avec le sens du déroulement d'un tapis visuel sans le toucher avec les pieds. Après cette expérience couronnée de succès, les deux chercheuses ont imaginé un nouveau dispositif encore plus audacieux. Elles ont voulu savoir si les nouveau-nés étaient capables de faire des pas en rythme.
Après cette expérience-là, on s'est demandé si, en tenant le bébé donc, sur un plexiglas avec des damiers noirs et blancs, et cette fois, on ne les faisait pas bouger dans le sens de la marche, en avant et en arrière, comme avec Marianne, mais on les faisait flasher à un rythme, avec un son, un bip encore, pas beau. Et là, on voulait observer les mouvements de jambes du bébé en se disant, il va peut-être bouger en rythme.
Et
pas du tout. Il ne bouge pas en rythme.
L'expérience aurait pu s'arrêter là, si Joël Prevasi et Marianne Barburotte n'avaient pas tendu l'oreille.
Le premier bébé qu'on a fait passer, j'ai été impressionnée par les vocalises, on va dire des vocalises plus que des pleurs. On avait l'impression que le bébé pleurait en rythme. Et j'ai dit à la maman, vous avez remarqué, votre bébé, il pleure en rythme. Et elle m'a dit, je l'ai observé, mais je n'osais pas vous le dire.
Génial.
Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Parce que c'est comme ça, la recherche, des fois. C'est un peu l'intuition, on se dit, tiens, il y a un truc. Alors, les jambes, pas du tout, mais les vocalises. Est-ce que les vocalises sont influencées par les stimulations de l'environnement? On a les résultats qui ont montré que, effectivement, dans certaines conditions, là encore, hein, l'enfant va, le nouveau-né, de 3 jours, va modifier sa manière de pleurer pour être en rythme avec le rythme qu'on va lui présenter. Et donc, si c'est les vocalises, c'est les prémices du langage.
Donc, ça veut dire que le bébé pleure. Là, on parle des pleurs.
Je voulais les écouter.
Ah oui. C'est magnifique, ça. C'est... C'est un métronome, ce bébé. C'est fou.
Mais moi, ça m'a impressionnée la première fois que j'ai entendu ça. Là, c'est le bébé numéro 5 et le bébé numéro 1, c'était pareil. Et il y en avait plusieurs, effectivement, en fonction du tempo du bip par rapport à leur propre tempo à eux.
Est-ce que vous êtes surprise par ces bébés, ces nouveau-nés ?
Ah oui, c'est sûr que quand j'ai entendu qu'il pleurait en rythme, là, ça m'a vraiment scotché. Oui, ça m'a vraiment étonnée. Et je pense que c'est comme ça la recherche, c'est-à-dire que les bébés nous surprennent à chaque fois. Mais quand on les met dans les bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à imposer au bébé quoi que ce soit, parce que ça ne marchera pas. Mais si on se cale à son propre rythme, alors il est capable de faire beaucoup de choses.
Marianne Barburotte et Joël Provasi ont donc démontré que dès la naissance, les enfants synchronisent leurs mouvements de bras et de jambes et leur vocalisation à des rythmes externes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que les pleurs nécessitent comme coordination pour les bébés ? Cela demande une coordination précise entre les muscles du visage, les voies respiratoires et la respiration. Alors imaginez la complexité pour un bébé si, en plus, il se synchronise à un bip. Pour pouvoir réaliser ces expérimentations avec les nouveau-nés, il a d'abord fallu se mettre à leur rythme, qui n'est pas le plus adapté à la recherche scientifique.
Déjà, il faut attendre le bon moment, parce que ça, c'est le capital. Avec des nouveau-nés, il faut qu'on les prenne à un état qui s'appelle le stade 3 de Prechtl, éveil calme. Ça, c'est le plus important. Donc, il faut attendre que le bébé soit éveillé et qu'il soit calme. Il a des phases de 3-4 heures, on va dire. Hein, il est réveillé toutes les 3-4 heures pour manger. Dans la littérature, on dit qu'il a 10 minutes de phase d'éveil calme. Alors, c'est compliqué, il faut être très patient, il faut attendre, et il faut être là au bon moment. Et quand on est là au bon moment, on peut avoir une interaction qui est vraiment de qualité avec le bébé. Et là, c'est tous les sens. C'est-à-dire qu'on rentre en communication avec lui, avec la vision, l'audition, le toucher, l'odeur, en le prenant en la fameuse position de Bouddha, c'est-à-dire la fameuse position qu'il avait in utero, et en le mettant contre soi. Pourquoi contre soi ? Parce qu'il a le rythme cardiaque de la personne qui le parle et le rythme respiratoire. Et il a aussi la voix et l'odeur. Et si ça marche avec nous, ça marche encore mieux avec les parents. À partir du moment où ils ne sont pas stressés.
Les nouveau-nés sont donc capables de se synchroniser avec leur environnement. C'est vital pour eux d'être en synchronie. Cette synchronisation permet au bébé de communiquer et d'interagir avec le monde qui l'entoure. Mais se synchroniser est une activité très complexe pour les nouveau-nés. Cela requiert des capacités de perception, de production, d'anticipation et d'ajustement de leur réponse aux stimulations. Vous vous rendez compte ? Moi, je n'en reviens toujours pas. J'ai pourtant observé ma fille de longues heures quand elle était encore un tout petit bébé. Mais jamais je n'aurais imaginé que les nouveau-nés aient de telles capacités. C'est bouleversant, non ?
Quelles sont les synchronisations possibles ? Ça peut être la voix des parents, les parents qui parlent vite, les parents qui parlent lentement.
Oui, oui, tout à fait. Alors ça, ce n'est pas mes propres recherches, c'est les recherches d'Emmanuel Devouche avec une étudiante qui s'appelle Sarah Dominguez. Et c'était la thèse de Sarah et ils ont montré que pendant l'interaction avec des nouveau-nés de 3 jours, toujours, le bébé ne réagissait pas à n'importe quel moment, mais bien à la fin de la vocalise de la mère.
Donc ça voudrait dire que le bébé perçoit le moment où il peut s'exprimer à son tour.
Tout à fait.
Être entendu, en tout cas.
Oui.
C'est pas à n'importe quel moment. Il attend que la mère ait fini de parler. Mais ça veut dire qu'il peut prédire, puisqu'il faut qu'il se prépare avant de vocaliser, c'est-à-dire qu'il peut prédire à la prosodie de la langue de la mère le moment où lui va pouvoir intervenir.
Parce qu'il la connaît, la prosodie, en fait. Il l'a déjà entendue in utero, donc il est calé avec.
Dans une forme de dialogue avec la mère.
Oui, parce que, en fait, c'est l'intonation aussi. Hein. Il y a une étudiante allemande qui a montré, MAMP en 2009, qui a montré que les bébés allemands ne vocalisaient pas de la même manière que les bébés français à 3 jours, à la maternité. Et donc, ils ont un cri, enfin, des pleurs, des vocalises, qui sont différentes. Les bébés allemands, ils vocalisent très fort au départ et puis ils diminuent. Et les bébés français, c'est le contraire. Et en fait, c'est tout à fait lié à la langue qu'ils ont entendue in utero.
À la prosodie de la langue in utero, qu'ils ont entendue in utero. Est-ce que vous pouvez dire que, parce que c'est ça qui m'intéresse beaucoup, Joël Provasi, que en fait le rythme, ce serait la première étape de la communication, d'une forme de dialogue et de communication?
Pour moi, le rythme, c'est la première étape d'une synchronisation. Et on se synchronise pour être en interaction avec son environnement. Et évidemment, l'environnement le plus proche, c'est la mère et les parents. Et on veut se synchroniser pour être en rythme avec ses parents.
Et la synchronisation, donc vous avez démontré que le bébé se synchronisait avec son environnement. Il était capable de se synchroniser. Et cette synchronisation, c'est le début de la communication. C'est pour rentrer en communication.
Je pense sincèrement que le rythme, c'est la base de la communication.
Le rythme et la synchronisation au monde extérieur sont les premières briques de la communication. Mais comment font les bébés pour apprendre leur langue maternelle? C'est ce dont nous parlerons dans le prochain épisode de notre podcast « Les super-pouvoirs des bébés ». Les bébés sont des génies pour tout ce qui concerne l'apprentissage des langues et c'est presque un miracle qu'ils y arrivent tellement ils doivent surmonter d'obstacles. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Flora Bernard et Josépha Lebrun et écrit par Zoé Varier. Les super pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.